Bien, on le voit de plus en plus, les réseaux sociaux deviennent un lieu où sévissent beaucoup de gens qui exercent leur fiel et le déversent allègrement sur toutes sortes de personnes, d'abord sur des personnalités publiques. Et même quand vous n'êtes pas connu, mais que vous émettez une opinion, ça peut vous amener un flot de commentaires désobligeants qui vont de l'insulte légère jusqu'à la menace de mort. On a vu, évidemment, on en a beaucoup parlé hier, dans les nouvelles de ces menaces dont a été l'objet le premier ministre du Québec, François Legault. Puis on a entendu ce pauvre monsieur, parce que vous voulez qu'on dise d'autre de quelqu'un qui menace le premier ministre puis qui a comme défense de dire « ben je voulais pas vraiment dire ça, c'est pas ça que je voulais dire ». Puis de toute façon, j'écoute pas ça les nouvelles, moi. Je passe 3-4 mois par année en République dominicaine. Puis vous l'entendez parler, puis vous dites... visiblement, il y a des bouts, il y en a manqué. Et donc, il a échappé une coupe d'affaires. C'est ça qui arrive quand tu te renseignes auprès de tes amis et non pas auprès de sources d'informations fiables. Pour beaucoup de gens, les réseaux sociaux sont la source d'information numéro un. Et il suffit que tu entendes parler de quelque chose sur Internet pour que tu le croies, au détriment de tous ceux qui font des recherches, par exemple. On va en discuter parce que ce que je veux vous demander pour la prochaine demi-heure, c'est jusqu'où peut-on aller, d'après vous, sur les réseaux sociaux? Il y a de plus en plus de gens qui décrochent, qui trouvent que ça ne les rejoint plus. Aussi parce qu'ils ont été l'objet d'insultes. On va en discuter avec Nelly Brière, qui est stratège en communication numérique et réseaux sociaux. Bonjour Nelly.
Bonjour Isabelle.
Jusqu'où on peut aller sur les réseaux sociaux? Définitivement pas jusqu'aux insultes et aux menaces de mort, clairement. Et pourtant, c'est ce qu'on voit de plus en plus.
Ben oui, en fait, il faut aller jusqu'où on devrait aller dans le monde concret. Ce qui se passe, Isabelle, c'est que c'est arrivé très vite dans nos villes numériques, puis peut-être à des âges où on n'est pas dans un mode d'apprentissage social, hein. Parce que j'observe chez les plus jeunes, il y a de l'acquis un petit peu plus de ce côté-là, parce que justement, on va moins aller dans des lieux publics pour évoquer des choses aussi, extrêmes, là. Tandis que pour des gens qui vivent le numérique depuis peu dans leur vie ou qui est arrivé très tard et qui n'ont pas nécessairement fait le lien avec le fait que, ben, quand vous parlez ici, là, c'est en public. Et ils n'ont pas fait le parallèle avec le monde concret. Ils se rendent pas compte que, ben, si vous dites quelque chose, par exemple, sur Twitter, c'est un peu comme si vous alliez le crier devant une foule sur une scène, parce que là, tout le monde peut vous entendre. C'est pas comme quand vous parlez dans un souper entre amis. Et je pense que jusqu'où on doit aller, ben, il faut se le fixer puis se poser la question en essayant de transposer ce qui se passe en ligne avec une réalité concrète. Par exemple, Isabelle, si vous entendez des gens discuter là dans une table d'un café à côté de vous, là, est-ce que vous vous sentez autorisé d'aller crier votre opinion parce que vous entendriez des gens discuter d'un sujet qui vous choque?
Mais non, clairement non.
Mais pourquoi est-ce que quand vous voyez des conversations sur Facebook, sur par exemple en dessous d'un statut d'une personne que vous connaissez pas, mais parce qu'un ami serait allé commenter, de quelle manière vous autorisez-vous à aller, par exemple, intervenir de façon abrupte et en criant ou en venant insulter la personne qui a émis le statut? C'est la même chose, en fait. Mais je pense qu'il y a, on a besoin de temps, en fait, avant de comprendre, justement, avant de transposer ces réalités-là, puis de développer une certaine forme de civisme numérique, si on veut.
Mais pourtant, Nelly, c'est pas quelque chose de nouveau, là. On le dit depuis plusieurs années qu'il y a une façon de se comporter sur les réseaux sociaux. Fait que c'est comme d'autres choses. On a envie de dire, voyons, là aussi, on dirait que le message passe pas. Il y a beaucoup d'éducation qui reste encore à faire de ce côté-là.
Ben, je pense que, comme je le disais, il y a déjà le moment où ça arrive dans nos vies, tu sais, parce que je pense que quand on est jeune, on est tout en train d'intégrer des façons de socialiser. Là, ça fait peut-être 40 ans que vous avez des façons de socialiser, puis le numérique en fait pas partie, fait que ça peut être peut-être plus difficile à intégrer, plus difficile à comprendre, fait que c'est comme un enjeu de, comment je pourrais dire, d'apprentissage plus difficile. Mais il y a aussi le fait que il n'y a pas eu encore de conséquences assez visibles, à mon avis. Dans le cas, là, justement, de menaces criminelles, de harcèlement, tu sais, il y en a beaucoup qui en subissent là actuellement, là, du harcèlement dans les boîtes de commentaires, particulièrement les gens qui sont dans dans, sur la scène publique ou dans les médias. Là. Je suis sûre qu'Isabelle, vous recevez des commentaires désobligeants là, sur les réseaux sociaux particulièrement. Ben ça, je pense que ces gens-là n'ont pas encore eu de conséquences connues parce qu'il n'y a pas eu encore de poursuite. Tu sais, le cas que vous avez évoqué là, d'entrée de jeu là, avec le premier ministre, ben, je pense que ce cas-là, si ça s'avère avec des conséquences, ça va faire réaliser probablement à plein de gens que, oups, on peut peut-être pas aller aussi loin. Pour peut-être faire attention à ce qu'on dit, de la même manière qu'on peut pas proférer des menaces de mort publiquement là, de manière concrète non plus. Là. T'sais, les lois s'appliquent aussi en ligne, là. Mais c'est comme si on n'avait pas encore pris vraiment conscience de ça parce qu'il n'y a pas eu encore des conséquences connues dans l'actualité ou pas assez, en fait.
Oui, mais tu dis, Nelly, que les lois s'appliquent aussi sur les réseaux sociaux. On va parler avec un avocat dans quelques minutes. Je vais en profiter pour redonner nos numéros de téléphone là-dessus. 514-790-9850. C'est pour nous joindre dans la région de Montréal. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. J'aimerais ça que vous me disiez si vous avez été, vous, objet, si vous êtes sur les réseaux sociaux beaucoup puis que vous avez été l'objet de critiques ou de réactions violentes. Des fois, c'est le ton, tu sais. Tu dis, voyons, le monde est donc bien agressif, puis en ce moment, plus que jamais. C'est vrai qu'après 5-6 mois de COVID, on est vraiment, on a l'air d'être tanné de son prochain, et pourtant, on en a été éloigné. C'est comme si on avait de la misère à se rapprocher. Puis la difficulté sur les réseaux sociaux, Nelly Brière peut peut-être intervenir là-dessus, c'est qu'en fait, tu le vois pas l'autre. Parce que c'est comme si l'autre était anonyme aussi. Autant toi, ton commentaire est anonyme, en tout cas, te paraît anonyme, autant l'autre, tu le vois pas réagir. Fait que peut-être c'est ça qui crée la distance.
Ça dépend des espaces, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des espaces qui sont des espaces de communauté et qui sont codés par les communautés. Là, je vais expliquer plus concrètement. C'est que vous, là, par exemple, si vous avez créé un groupe avec les membres de votre famille, c'est entendu comment vous allez vous comporter parce que avec votre famille, vous savez peut-être qu'il y a des sujets que vous abordez pas ou vous les abordez avec un certain protocole parce qu'il y a des sensibilités. Vous savez que cette personne-là, par exemple, vous allez peut-être la vouvoyer ou pas. La façon d'interagir avec les membres de votre famille sont déjà établis et vous allez les reconduire sur le groupe Facebook. Même chose avec, par exemple, une classe en ligne qui créerait un environnement, un espace. Bien, probablement que les enseignants vont vous dire que dans leurs espaces virtuels, dans l'enseignement actuellement, ils établissent des codes et tout le monde les suit. C'est dans les espaces non codifiés qui appartiennent pas à des communautés que ça devient un petit peu plus flou puis incompris. Par exemple, dans les zones de commentaires en dessous des publications, par exemple, de médias ou de personnalités publiques. Hein, parce que vous le savez, là, quand vous êtes une personnalité publique, des fois, vous avez l'impression de plus pouvoir vous appartenir, finalement, parce que les gens vous voient comme une publication d'une marque ou d'une entreprise ou d'un diffuseur et s'autorise les commentaires parce que vous êtes justement dans cet espace public de débat où c'est permis d'intervenir. Et dans ces espaces-là, les gens n'ont comme pas reconduit le code social qu'on a dans les espaces publics concrets. Et c'est là que je pense qu'on l'échappe un peu, je dirais, là, Isabelle.
Mm-hmm. Effectivement. Mais en même temps, ce code-là, Nelly, ce code de conduite, rappelle-nous-en les grandes règles.
Bien, en fait, déjà, il y a des règles de politesse. Quand on s'adresse à quelqu'un, il y a un niveau de proximité qu'on a avec une personne. Une personne qu'on connaît très bien, on peut se permettre plus de familiarité, mais encore là, dans un espace public, on peut peut-être se garder de révéler des choses personnelles sur cet individu-là. Fait qu'il y a déjà le niveau de relation que vous avez avec la personne qui va un peu indiquer le ton. Si vous connaissez pas la personne, ben ça peut être une bonne politesse de la vouvoyer, par exemple. Et aussi de, comment je pourrais dire, d'être un petit peu plus poli, de faire un peu plus attention. La personne vous connaît pas, ne connaît pas vos intentions. Il y a aussi le fait de pas présumer nécessairement que les gens sont mauvais ou fâchés et faire attention à l'interprétation en ligne. On n'a pas la communication non verbale, on n'a pas l'empathie qui vient avec le réel, là. Et des fois, ça peut être difficile d'interpréter, puis il y a beaucoup d'erreurs qui se glissent là-dedans. Alors, ça vaut la peine de repréciser vos intentions, repréciser vos émotions, repréciser ce que vous voulez dire avec beaucoup, beaucoup de détails, avec des métaphores, parce que c'est moins facile de se comprendre dans un espace où il n'y a que l'écrit, même avec des emojis, parce que même les emojis, vous savez, peuvent être sujet de mauvaises interprétations, hein, je pourrais parler.
Écoute, les emojis, là, c'est qu'on est juste sur le bord de plus être capable. Moi, j'en utilise quand même certains. T'sais, j'aime bien mettre un petit smiley ici et là, mais il y a des gens qui en mettent partout. Ça vient comme annuler le commentaire qui précéderait puis qui serait légèrement désobligeant. Là. Tu mets une couple d'emojis pour dire, mais tu sais, en même temps, je t'haïs pas. Il y a comme un drôle de message.
Oui, ben ça peut pas être non plus un outil de dédouanement, là. On peut pas.
Ouais, c'est ça.
Même si je frappe quelqu'un, là, si je le flatte après, ça annule pas le fait que je viens de le frapper.
Exact.
C'est pas
exact. Ça
non plus. C'est censé être là pour simplement préciser certaines émotions. Puis l'ironie passe très mal. Fait que moi, je suggère toujours de ne pas en faire parce que elle est. C'est ça, on comprend pas bien ce genre de subtilité-là parce qu'il n'y a pas de ton. Dans un ton de voix, on peut passer une intention.
Ouais.
C'est une blague. Mais à l'écrit, même avec un petit emoji qui a l'air de rire, ça suffit pas pour faire passer peut-être dans l'ironie. Fait que je pense qu'il y a ça. Puis il y a le fait que on n'a pas tout le temps les mêmes références. Dans un espace public, moi, par exemple, je peux faire une blague en utilisant des emojis qui font référence à des légumes, par exemple, pour parler de mon repas, alors que pour quelqu'un d'autre, ça va faire référence plutôt à des organes humains. Puis c'est la même chose pour tout. Là. Je donne l'exemple des emojis, mais les références, le ton, les mots à utiliser, et ça fait qu'on est beaucoup plus large là, quand on est, par exemple, dans une zone de commentaires en dessous d'une publication du 98.5.
C'est sûr qu'on n'a pas tous le même humour. Tu me permettras d'aller aux auditeurs. Il y a Sophie qui nous appelle. Bonjour Sophie, je pense que vous avez déjà reçu des messages assez désobligeants.
Oui, exactement, c'est ça. Ben moi, c'est clairement juste mon ancienne belle-famille qui était très très fâchée. Moi, c'est parce que leur fils est décédé. Puis, mon Dieu, j'en passe, c'est des commentaires, c'est surtout de mon beau-père. Là, il avait créé une page Facebook pour dire que j'étais une mauvaise mère, puis que,
mon Dieu,
j'ai tellement tout fait pour mon mari, tu sais. C'est ça, on avait un enfant, puis, je leur parle plus aujourd'hui parce que, justement, ils ont été vraiment désobligeants. Puis la police, elle peut rien faire, là. Rien faire, puis elle était venue chez moi à me menacer, ça oui, j'ai pu faire quelque chose, mais la police, en même temps, c'est des oui-dire de... Fait que, tu sais, si on porte plainte, oui, mais encore là, ça peut aller loin, puis tu sais, bon, on vit un deuil, on pense pas à ça, mais mon Dieu, c'est ça. Même, ils ont mis des photos de ma fille sur Internet, puis je pouvais rien faire, là. Je veux dire, j'essayais de tous les moyens possibles d'être gentille, de leur dire, regardez, même votre fils de son vivant accepte pas ça, il y avait juste nous, les parents, qui pouvaient mettre des photos de notre fille. Mais je veux dire, je me suis retournée vers la police, puis mon Dieu, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire, là, tu sais.
La police n'a pas pu faire quelque chose pour vous aider?
Non, pour les réseaux sociaux, non. Dans le fond, moi, j'ai pris des captures d'écran de toutes les paroles, tous les écrits qui étaient sur le site, des photos, j'ai apporté ça, puis il faut leur demander, puis passer par Facebook pour qu'ils enlèvent vos photos. Ça a pris des mois avant qu'ils enlèvent mes photos de ma fille, puis... Je me dis, Colin, comment ça se fait là, qu'il n'y a pas des lois qui puissent nous protéger mieux que ça, en fait. Là, c'est surtout que c'est un enfant, mais comme que j'en entendais parler, ils n'ont pas le droit, c'est des enfants, ils n'ont pas le droit. Mais écoute, ça a pris du temps avant que ça puisse se faire, même par l'entremise de Facebook. Donc,
Est-ce que ça a fini par se faire? Est-ce que Facebook a fini par enlever les photos, par exemple?
Oui. Ça s'est fait. La page, ils ont été fermés aussi parce que là, moi, je leur ai dit, regarde, moi, j'ai toutes les captures d'écran, tout ça, des paroles. Puis clairement, c'est de moi qui parlais parce que dans le fond, il y avait les frères, ces deux frères, le père et les fils qui étaient là. Fait que je dis, moi, ils essayaient de voir ma fille. Je dis, mais vous pensez vraiment que vous allez voir ma fille, mais avoir été méchant comme ça sur Internet? C'est sûr que ça marche pas, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, j'essayais de faire des plaintes, j'essayais de me protéger ma fille, mais c'est ça, la police a dit appelez-nous la prochaine fois, mais la prochaine fois, ça va être trop tard. Je veux dire, à quel point il faut attendre pour qu'il se passe quelque chose, puis qu'on réagisse, surtout sur les médias sociaux, mais comme vous dites, les emojis, tu sais, des fois, les paroles peuvent être comment je pourrais dire ça, on dose pas l'intensité peut-être des paroles, tu sais. De la profondeur de ce qu'on peut écrire, mais reste que c'est quand même délicat, mais il devrait avoir des lois, c'est sûr. Là,
vous comprenez comment doit se sentir François Legault?
Exactement, oui. Ben, je comprends aussi le monsieur. Tu sais, des fois, on dépasse nos paroles. Puis, comme disait l'autre personne précédemment, je pense que la technologie est rentrée dans nos vies. Puis même moi, je suis dans la début trentaine. Puis je sais que je suis déjà dépassée par certaines technologies. Donc, j'imagine pas mes parents, mes grands-parents, comment ils doivent se détenir pour comprendre cette technologie-là qui fait partie de notre monde puis qui est pratiquement indispensable. Donc,
mais en même temps, Sophie, parce que je trouve ça épouvantable ce que vous avez vécu, mais en même temps, dans le fond, ça n'a rien à voir avec la technologie. Nelly l'a bien dit, n'est-ce pas, Nelly? C'est dans le fond, c'est des règles de civisme. Tu sais, tu créerais pas ça. C'est pas la technologie te donne pas le droit de le faire, ce que tu pourrais pas faire en face de la personne.
Cette personne-là n'aurait pas pu louer une salle, puis inviter les gens, puis faire des diffusions de ce qu'elle a posté sur Facebook de la même manière, là.
Non, effectivement, c'est vraiment se voiler un peu la face, là, tu sais, aller comme ça. Puis moi, je me suis vraiment détachée beaucoup de Facebook. Je suis pas sur Twitter ou Instagram, affaires comme ça. Puis justement, c'est de cette raison-là, peut-être que les gens, ils négligent un peu les mauvais côtés, ou tu sais, quand tu t'es attaqué comme ça, ben là tu comprends que ouais, la technologie, c'est bon puis c'est mauvais, puis c'est apprendre à en laisser, mais clairement il faut régir quelque chose, tu sais, autant que ça soit que ce soit le port du masque, que ça soit toutes ces règles là à faire, ben tu sais, faut que ça soit clair, faudrait qu'il y ait quelque chose de clair écrit, que ça soit, tu sais, on dit nous, je suis censé ignorer la loi, par contre c'est tellement changeant que c'est tellement c'est tout nouveau, il faut mettre en place quelque chose, ça c'est certain.
Merci beaucoup de votre témoignage, Sophie. Merci bien. On s'arrête ici, on va à la pause. On aura justement un avocat criminaliste qui va nous dire si Sophie posait la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas de loi qui nous protège mieux que ça? Est-ce qu'il y en a des lois? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On se retrouve de l'autre côté de la pause. On a Joe qui nous appelle sur notre discussion sur les réseaux sociaux et jusqu'où on peut aller d'ailleurs dans nos commentaires désobligeants. Moi, j'aurais tendance à dire pas trop loin, hein, on reste civique. Mais bon, Joe, vous avez reçu vous-même des menaces ou vous avez parfois l'occasion de dépasser peut-être une limite?
Ben, honnêtement, je prends ça à la légère. Je pense qu'à un moment donné, qu'on reçoive des menaces ou peut-être que des commentaires désobligeants de gens qui ont pas une bonne journée ou qui n'adhèrent pas à ce qu'on peut exprimer. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai évité complètement maintenant que ce soit sur Facebook ou Twitter, le mur là, où tout le monde voit les commentaires, parce que lorsqu'on a un débat et que tout le monde le voit, c'est pas le même genre de discussion qu'on peut avoir en privé. Et quand je vois que ça dérape, soit j'enlève complètement le sujet, ou alors on tombe en messagerie directe, c'est-à-dire privée, où on peut se parler. Et si jamais on voit que ça dégénère, ben là, on lève un téléphone, on se parle, là, on n'est pas... À un moment donné, je pense que les gens qui ne sont pas importants pour moi, je les enlève. Les commentaires désobligeants, je les enlève. J'ai pas à me battre avec des gens qui ne savent pas discuter, avoir un échange respectable. Je préfère les retirer complètement et puis continuer dans le bon sens d'une discussion dans le respect. Je pense que si une personne ne sait pas respecter, c'est pas à moi de faire son éducation. Simplement, soit je l'appelle si c'est un ami proche, et si c'est quelqu'un que je connais pas, écoutez, j'ai pas besoin de ces personnes-là dans ma vie, tout simplement.
Ouais, voilà. Ben, c'est une bonne façon de voir les choses. Merci beaucoup, Joe. Avec nous, l'avocat criminaliste Walid Ijazi. Bonjour, maître Ijazi.
Oui, bonjour.
Et tout à l'heure, Sophie, qui avait reçu qui avait été l'objet, là, c'est plus que recevoir des insultes, elle a été l'objet vraiment d'une campagne de salissage où, en plus, son ex-belle-famille a mis des photos de son enfant. Bref, vous avez entendu. Et elle posait une question très juste. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de loi qui nous protège mieux que ça? Est-ce qu'il y en a une certaine protection contre ceux qui écrivent n'importe quoi sur les réseaux sociaux?
En fait, oui. Ben, je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Internet est un univers identique à celui du monde réel, alors que les lois qui s'appliquent dans la vraie vie s'appliquent également sur Internet. On a tendance à l'oublier, on a tendance à penser que Internet est une autre planète, mais non, le code criminel s'applique également à ce qui est dit sur Internet. Alors là, les scénarios que vous avez évoqués, bon, je me suis avancé, je recule. Aussi, on parle de parole. Hein? Alors, avant qu'on sanctionne la parole, il faut faire attention. On a une liberté d'expression, c'est délicat. Lorsqu'on menace, lorsqu'on dit qu'on va s'en prendre à l'intégrité de quelqu'un, je vais te frapper ou tu vas mourir, ben c'est une menace, ou je vais brûler ta maison. Bon, n'importe quoi qui serait une menace dans la vraie vie, si on l'écrit sur Internet, c'est tout autant une menace. un propos qui est peut-être moins violent, moins intimidant, mais qui est répété. Si on harcèle quelqu'un, ben c'est du harcèlement. Mm-hmm. Au même titre que ça pourrait l'être dans la vraie vie. Si on a des communications non souhaitées, à répétition, qui deviennent à ce point envahissant que je peux commencer à me demander est-ce que je devrais avoir peur de cette personne-là.
Mais toutes les causes de harcèlement, ou enfin je dis toutes, la plupart des causes de harcèlement, Maître Ijazi, on sait très bien que ça va pas très loin, là, ça. Bon, la police fait pas grand-chose pour ça, là.
Je pense que c'est une affirmation d'application générale qui a besoin de précision. Des fois, non, ça mène. Je veux dire, chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas est évalué selon les particularités qui lui sont propres.
Quelques exemples. J'ai assez fait d'entrevues là-dessus avec des gens qui ont par exemple, en cas de harcèlement psychologique au travail, sincèrement, ce que même des avocats me disaient, c'est qu'ils recommandaient à la personne de changer d'emploi parce qu'il n'y avait pas grand-chose que la loi prévoyait. Donc, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de choses que la police peut faire. La preuve, là, on a un cas, là. Celui qui a proféré des menaces contre François Legault, où il a écrit qu'il paierait de sa vie pour avoir imposé le port du masque. Là, il dit aujourd'hui, je voulais dire sa vie politique. C'était pas clair comme ça quand il l'a écrit, mettons. Puis il dit, de toute façon, c'était pas violent, j'ai écrit ça sous l'impulsion. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il a été rencontré par la SQ. Pensez-vous que ça va aller quelque part ou ça va faire pouette-pouette?
On va voir comment le DPCP va traiter ce dossier-là en particulier. Avant l'explication de monsieur, c'est sûr que les paroles, lorsqu'on parle d'une menace, là, que ce soit sur Internet ou ailleurs, on regarde le contexte, on regarde les mots qui ont été utilisés, on regarde la personne qui s'exprime et on regarde le contexte. Avant que monsieur parle, c'est sûr que tu vas payer de ta vie. À première vue, c'est intimidant, c'est violent, ça pourrait être constitutif d'une menace. Mais lorsqu'on évalue l'ensemble de la situation avant de porter des accusations ou lorsque au procès, un juge cherche à déterminer est-ce qu'il y a menace ou non, on regarde l'intention, on regarde le contexte et on regarde l'ensemble de la situation. Ici, monsieur n'était pas obligé de parler, mais il a senti le besoin là, de faire une tournée médiatique pour s'expliquer. Il explique un petit peu son intention. Bon, c'est quelqu'un d'illettré qui
il n'a pas senti le besoin de faire une tournée médiatique. Il a été appelé par les journalistes.
Non, mais c'est parce que l'avocat, il va dire tu parles pas jamais et laisse-moi régler ça à la cour. Lui, il s'est exprimé. Il a donné sa version des faits et c'est une version qui est intéressante, qui est pertinente dans l'ensemble de la situation. Alors, quand procureur va évaluer la situation. Mmh. On va chercher à voir quelle est la version de monsieur. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est vraisemblable? Ou est-ce que c'est une explication a posteriori?
Mais un autre, Maître Ijazi, qui écrit, il se mériterait une balle entre les deux yeux, ou bien quelqu'un qui dit, voulez-vous me tuer ça, s'il vous plaît?
Ouais.
Ou tous ceux qui, sincèrement, je veux dire, ça, c'est assez sans équivoque. Je veux dire, il y a eu des cas de jeunes qui se sont enlevés la vie après que certains de leurs pseudo-amis sur Facebook, leur a dit « Hey, va donc te pendre chez toi ». Puis quand c'est arrivé, ils ont mesuré la gravité de leur geste. Mais qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut accuser quelqu'un d'incitation à passer à l'acte, quelqu'un d'incitation à la violence? Et qu'est-ce que cette personne-là, d'un point de vue légal, risque juridiquement, là?
C'est possible. Est-ce qu'il y a incitation au suicide, c'est une infraction qu'on voit pas souvent, mais que c'est qu'on voit. Menace, intimidation, les paroles qui sont constitutives d'un crime, c'est sanctionnable. Après ça, chaque cas va varier. Hein, puis c'est vraiment le sens des mots, le contexte. Souhaiter la mort de quelqu'un, l'extérioriser, c'est pas nécessairement une menace, c'est pas un propos sympathique, mais ça pourrait être protégé par la liberté d'expression. Dire tu vas payer ou tu ou un propos qui laisse une ambiguïté. Alors tu vas payer de ta vie. Point. Sans autre explication. Moi je reçois cette communication là, je peux me demander je vais payer de ma vie comment? Est-ce que tu vas me faire mal? Alors bref, on cherche à m'intimider. Il y a un propos menaçant. T'es un pourri, tu mérites la mort.
Je vais
c'est pas nécessairement une menace.
Ouais, je vais vous donner un exemple. Ok, c'est le mien, fait que je le connais bien. J'ai reçu, il y a une couple d'années, un commentaire de quelqu'un anonyme, bien sûr, parce qu'ils ont toujours beaucoup de courage, ce monde-là, qui me disait « Je vais te violer à la pointe de mon couteau. » On a essayé de trouver le taouin qui m'avait écrit ça.
Oui.
On ne l'a jamais trouvé.
Okay.
Mais moi, j'ai eu un gars qui, pendant... Moi, je me suis... Qu'est-ce que vous pensez que j'ai pensé, moi? Moi, je me suis dit, un gars qui se promène, qui peut-être m'attend à la sortie de mon bureau, qui peut-être sait où j'habite. Je suis assez facilement joignable. Hein? Le monde m'appelle pendant 2 heures tous les matins. Puis ce gars-là, que moi, je ne connais pas, mais qui, lui, me connaît, me menace de me violer à la pointe de son couteau. Pensez-vous que j'ai bien dormi?
Ben, c'est précisément ça pourquoi on criminalise. Criminaliser la parole, c'est délicat, mais on criminalise les menaces parce que l'objectif d'une menace, c'est-à-dire la personne qui menace, son but, c'est d'intimider, c'est de priver l'autre personne, la personne qui le menace, de son libre arbitre. C'est ça l'idée même d'une menace, c'est que la personne se sente intimidée, ait peur. Une menace n'a pas besoin d'être suivie du début, du commencement, de quoi que ce soit. On n'a pas besoin de mettre sa menace à exécution. Ouais. Le simple fait de le dire et que les paroles sont sérieuses et peuvent être prises au sérieux et suscitent la crainte. Ouais. Alors, on parle d'une menace et le crime, il est consommé, même si, dans notre tête à nous, on n'a jamais eu l'intention de faire suite à ça. Le simple fait de le prononcer, le crime est consommé, comme on dit.
Ouais. En attendant, ben.
Je suis désolé, Isabelle.
C'est non, pas... ben, non, ben, c'est pas grave, là. J'en suis revenu. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là existe toujours, là. Puis, il a jamais été importuné. Fait que moi, le dire, ils peuvent être passibles de 5 ans de prison. Sincèrement, ça me fait un peu rire.
Mais.
Nelly, Natu, on va conclure parce qu'on s'étend. Oui. Malheureusement, ça. Oui, ben, je me suis emporté avec mon exemple, mais.
Mais ouais. Là-dessus, juste sur ce. Dans ce cas particulier-là, on l'a pas retracé, mais souvent, plus souvent, contrairement, les gens se cachent derrière des pseudonymes. Les policiers, les services technologiques sont équipés, là, ont l'habitude maintenant et arrivent plus souvent qu'autrement à localiser les gens qui se cachent derrière un clavier. Alors, faut pas penser qu'on est totalement anonyme et qu'on sera jamais trouvé, là. Les policiers sont équipés.
Ouais. Nelly, en conclusion là-dessus, Nelly Brière.
Pour permettre de conclure avec ça, il faut aussi comprendre qu'il y a une ambiance de qu'est-ce qui est acceptable aussi comme comportement en ligne. Ça, c'est le problème de la haine et des comportements haineux. Je sais qu'il y a un réseau global qui a été lancé là, par Facebook qui essaye de travailler avec toutes les autres plateformes pour justement trouver des solutions pour un peu briser ces espèces de comportements acceptables-là qui sont là autant du niveau du harcèlement, de la menace, ou etc. Donc, on va espérer que dans les prochaines années, dans le fond, les plateformes aussi jouent un rôle pour un peu apaiser le sentiment que vous évoquez, là, surtout quand on est une personnalité publique, parce qu'il y a des gens malveillants. Là,
ouais, mais il y a plein de monde qui sont l'objet de ce genre de personnages sombres qui se pensent plus forts que la police et qui se cachent bien derrière un écran. Mais merci. Écoutez, on aura l'occasion de rediscuter de ça, oui. C'est sûr. Nelly Brière, stratège en communication numérique. Merci beaucoup, Nelly. Merci beaucoup, Maître Ijazi, avocat criminaliste Walid Ijazi. On s'arrête ici. Changement de sujet après la pause. Je vais vous demander si vous avez des trucs pour ne pas vieillir aussi vite que le corps vieillit. Il y a des chercheurs montréalais qui ont trouvé apparemment des façons de ralentir le vieillissement. On en parle tout de suite après la pause.